Salut tout le monde. Lundi, le 13 janvier, est-ce qu'il y a du courant dans votre coin? Le week-end n'a pas été trop difficile. Enfin, une victoire pour le Canadien de Montréal. Pas que les questions qu'on a à se poser ensemble à sortie de zone sont bien différentes d'avant cette victoire qui met fin de série de 8 défaites, mais ça change l'air, comme dirait l'autre. Bienvenue donc à Sortie de zone, épisode de ce 13 janvier. Ici Mario Langlois avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Jérémy Filosa. Les gars, j'aurais pensé que la victoire du Canadien vous aurait donné un sourire plus éclatant aujourd'hui. Je vous sens en réserve encore.
Ben, moi, j'ai eu du fun à regarder ça. Ça a été très bien. Écoute, le but en prolongation, c'était extraordinaire. Un peu malchanceux, le Canadien, là, en troisième, d'avoir accordé le but qui créait l'égalité. Mais non, écoute, moi, j'ai trouvé le tir incroyable. Je l'ai revu et revu et revu pour m'assurer d'avoir bien vu et de bien pouvoir l'apprécier. Écoute, 4 points en 4 matchs pour Kovalchuk à date, là. Je veux dire qu'il y avait 6 points tout le reste de l'année en 2 mois à LA. C'est quand même pas pire.
Philippe
c'est...
Quentin pas là aujourd'hui, mais il nous disait ceci sur l'idée d'amener Kovalchuk à Montréal avant les fêtes. Et Philippe est un bon auditeur de sortie de zone quand même. Alors Philippe, un petit rappel.
Et là, aller chercher un gars de 36 ans qui était même plus invité aux pratiques des Kings de Los Angeles. Il voulait même plus l'avoir dans l'environnement de l'équipe. Et c'est rare que tu vois ça, là, dans la Ligue nationale, un joueur. Tu dis, non, viens plus, là. Reste chez vous. On veut plus t'avoir. Et là, qui a 36 ans, donc, qui a pas joué depuis un mois et demi. Puis là, on le fait venir ici. Puis on dit, ben, s'il avait été là hier, c'est peut-être lui qui a scoré le deuxième but qui aurait permis d'égaler 2-2. Ben, je me dis, je comprends pas. Je comprends pas vraiment ce qui se passe.
Comprenez-vous, les gars, vous autres? Commencez-vous à comprendre? Parce qu'il était pas tout seul à penser comme ça.
Ben, c'est ça, ben, justement. Et puis, je dirais pas du tout que je pensais le contraire et que j'entrevoyais quelqu'un.
On aime ça,
matchs.
Des gars comme ça, Guillaume.
J'étais absolument convaincu, moi aussi, que ça marcherait pas. Donc, jusqu'ici, je suis un sceptique qui est confondu.
Mais qui attend juste qu'il trébuche pour dire, je vous l'avais dit. Ben, c'est ça, le monde du sport.
Non, ben, tu sais, je pense pas qu'il va continuer à un point par match comme ça. Je pense pas qu'il va, je crois pas qu'à la mi-mars, il va encore jouer 20 minutes par match comme c'est le cas en ce moment.
Hey, surtout, on parle d'un point par match puis 20 minutes par match. Ouais, c'est quand même des gros standards à côté pour n'importe qui dans la ligue.
C'est ça, exactement. Donc, tu sais, il est pas là. C'est sûr que je pense qu'il est sûrement sur une certaine adrénaline là, du début. Mais ça reste que, humainement, je trouve que c'est une très belle histoire à voir parce que tu vois là un athlète qui était rendu un mal-aimé, si on veut, un indésirable, qui trouve une équipe qui lui donne une chance. Je sais pas quel discours ils lui ont fait à lui. Là, on sait tous que, bon, le discours qu'ils ont fait aux médias, le Canadien, on sentait pas un grand enthousiasme non plus. Je devine qu'ils lui ont signifié plus de confiance que ce qu'ils ont expliqué en public. Et puis, ben, jusqu'ici, regardez, c'est un joueur dont Claude Julien soutire le maximum. Alors, bravo aux Canadiens là-dessus. Jusqu'ici, on nous a confondus.
Ben, moi, j'étais déjà plus enthousiaste, mais on avait parlé un petit peu avant Noël. J'ai dit, ah oui, pour l'avantage numérique, je verrais ça. Je comprends que dans l'autre zone, c'est pas génial. C'est un petit peu ce qui se passe, by the way.
Oui, puis c'est ça.
Mais je pense que...
Je trouve pas faire, mais j'ai hâte de...
Non, mais je trouve que souvent, on fait de l'agisme, en fait, avec les joueurs de hockey. Hein. Hey, on parle souvent, là, ah, lui, il a 21 ans, là, il devrait avoir le temps de glace d'un gars de 35 ans ou 36 ans. Time out, là. Je veux dire, si le gars de 36 ans il est meilleur que le gars de 21 ans, ça arrive dans le Canadien présentement, il le mérite son temps de jeu. Le jeune de 21 ans doit mériter son temps de jeu. Il doit pas être gratuit, là, son temps de jeu. Tu sais, Kovalchuk, là, à 36 ans, oui, c'est sûr, là, il a pas la vitesse d'avant, mais il a encore des solides mains. Puis je pense qu'on oublie, mais dans l'histoire récente de la Ligue nationale, des bons joueurs de 36 ans, là, il y en a eu. Savez-vous combien Joe Thornton a fait de points l'année de ses 36 ans? 82 points!
Il y a une chose à ce sujet-là, Alexandre, que tu vas constater, c'est pas dans tous les sports, mais quand quelqu'un est un excellent athlète, veut pas, lui, là, il y a plus d'outils pour rester dans le game, tu sais.
Absolument.
Puis on a vu un échantillon de ces outils-là de Kovalchuk, ne serait-ce qu'en prolongation. On en voit à d'autres moments, mais c'est pas tout le monde. As-tu vu? À 3 contre 3, là, Claude Julien est dépouillé là, avec l'absence de Drouin puis d'une coupe de joueurs, puis Byron qui est plus là, Gallagher qui est plus là.
Mais il y a sa place là.
Il y a vraiment sa place.
Moi, je pense que notre vision de Kovalchuk, elle est faussée par le fait qu'il soit allé jouer en KHL, en fait, pendant 5 ans, 6 ans. On l'a pas vu jouer. Puis on s'est dit, il est allé dans une ligue secondaire, il a perdu son heure d'aller, puis ça a pas bien été à Los Angeles, mais je dis là, la culture à Los Angeles, de tout ce qu'on lit depuis 2 ans, ça a vraiment pas l'air d'être une organisation dans laquelle c'est le fun de jouer. C'est une belle ville, mais c'est pas le fun à jouer. Mais pour vrai, pour moi, un joueur de 36 ans qui fait 40-45 points dans une saison, il a encore sa place là, dans la Ligue nationale. Je tiens juste à dire, là, il y a plein de joueurs dans le Canadien qui présentement ont même pas 24 ans. Puis ils en font pas là 45 points par année. Puis je vois pas quand est-ce qu'ils vont se rendre à 45 points par année.
Pour toutes les fois qu'on a dit tant qu'à avoir lui, pourquoi on n'essaye pas l'autre? Pourquoi on s'est pas essayé avec lui? Pourquoi on sait, combien de fois on a dit ça par rapport à plusieurs joueurs? Et là, ben, la seule question, c'est pourquoi pas avoir été le chercher plus tôt?
C'est ça la question. Puis oublions pas qu'en Ottawa, il y a quand même eu une échappée aussi, là, dans le 3 contre 3 qui était spectaculaire.
Oui.
D'ailleurs, j'ai aucune idée comment ça se fait que les défenseurs l'ont laissé tout seul. Il y avait, je pense, une demi-zone d'avance. Mais écoute, il était...
C'est Chabot, by the way. Hein? Mais je l'adore.
J'ai pas marqué mais ce lui aussi, c'est mon joueur préféré dans la ligue.
Lui aussi.
Mais
bon.
mais
non, j'allais dire, on voit bien ce qu'on veut voir des fois non, avec les gars qu'on aime.
Mais, moi, ça me met quand même un sourire. Honnêtement, j'ai regardé la troisième puis le 3 contre 3 quand même avec attention. Tu sais, je pense que... Puis Kovalchuk, il en donne quand même au niveau du spectacle. Ça reste le fun. Je trouve que finalement... c'est une bonne embauche. Puis moi, je fais pas partie du tout des cyniques là, qui disent « Ah, oh, faut que le Canadien perde. » Puis comme Kovalchuk fait le jeu 30 minutes là, pour qu'il s'épuise puis qu'il en marque 2+. Voyons donc. Pourquoi tu regardes une game pour que l'équipe de ta ville perde? Moi, je comprends pas ça.
Puis comment tu peux amener des athlètes à se mettre dans un état d'esprit où ils vont jouer pour perdre? C'est tellement ridicule.
C'est tellement ridicule. Dale Weiss en a parlé là, la semaine passée. Là, je l'écoutais, Martin, qui présentait l'extrait puis qui a dit « Je comprends ce que les partisans veulent dire. Je comprends que au bout de la ligne, il y a un repêchage puis il y a un bon joueur puis tout ça. » Mais il dit « Nous, on est programmés depuis notre enfance. » à tout faire pour gagner tout le temps. Tu peux pas dire à un athlète professionnel, hey, pourrais-tu, laisse-en donc une passer, là, tu sais. Si le gars, il s'en vient en échapper, tosse-toi donc, tu sais, laisse-les pas. C'est impossible.
Ben, en fait, on dit athlète professionnel, mais c'est athlète tout court. Tu sais, va dans une ligue de garage.
Ben, athlète.
Puis tout le monde a le goût tu joues, c'est la nature même du sport.
Exactement.
Tu joues pour gagner. Fait que, tu sais, qu'un dirigeant, à limite, se dise, même un dirigeant, je sais même pas à quel point qu'un dirigeant veut à ce point-là perdre. À la limite, tu dis, on va y aller avec des jeunes. Et si on perd,
c'est parce qu'on a des jeunes qui font des erreurs,
puis on l'accepte, puis la conséquence sera un meilleur choix repêchage.
Puis même là, combien de fois c'est arrivé que des équipes se sont débarrassées de 2-3 vétérans, en espérant perdre, mais en se disant que ça risque d'être difficile, puis tout d'un coup, la date limite des transactions passe, et l'équipe se remet à gagner avec les jeunes.
Sans pression.
Parce que
les éléments négatifs aussi quittent souvent la date limite des échanges. Tu sais, prenez un vétéran, là, je reviens, j'ai écrit là-dessus ce matin, mais Ryan O'Reilly avec les Sabres en 2018, c'est un gagnant. Là. Ryan O'Reilly a gagné la Coupe Stanley l'année dernière, là, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Après la saison, les Sabres avaient terminé à 35 points d'une qualification, 7 en dessous de sans série. Il avait dit « C'est décevant, c'est triste. » Plusieurs fois cette année, j'ai senti que j'avais perdu mon amour pour le hockey. Ça me mangeait de l'intérieur et ça mangeait les autres gars de l'équipe de l'intérieur. Là.
C'est sûr.
C'est ça une reconstruction. Là.
Ben oui, puis c'est pour ça que de dire ça, faut pas t'as jamais eu à gérer quoi que ce soit qui ressemble à ça parce que tu parles vraiment à travers ton chapeau. Permettez-moi de picosser, je veux pas jouer au gars qui commente les commentaires des autres, mais des affaires qui m'interpellent, c'est que j'aime ça t'entendre dire, tu sais, j'ai eu du fun à regarder ce match-là parce que on fait ça pourquoi nous autres? On aime le hockey à base, puis on aime le sport, puis même quand il y a plus d'enjeu ultime, ben regarder un bon match de hockey, c'est le fun. Ça reste le fun, puis trop souvent, on l'oublie. Et tu touches un point également, Guillaume, par rapport, bon, je suis entré en picassant un peu ceux qui étaient très, très cyniques, tout ça, puis c'est correct, ta fiche présente était de cette opinion-là, mais tu remarques au passage que tu dis, on dirait qu'il était gêné de nous dire qu'il l'embauchait, et tu vas l'entendre dans cet extrait-là Claude Julien, on remarque la même chose. Mais c'est là que tu vois que le marché les atteint dans leur façon. Puis comment de fois vous avez entendu dire des fois en coulisses, on a des conversations des fois en privé avec des gens, on peut pas faire ça à Montréal. C'est une phrase, qui l'a inventé cette phrase-là? Ben c'est un pissou qui l'a inventé cette phrase-là. Puis s'il l'applique, ben il est pire que ça. Mais heureusement, l'organisation l'ont finalement pas appliqué. Mais écoute, Claude Julien, il y a beaucoup d'éléments dans cette réponse-là, dont la petite timidité qu'on avait. Il est en train de nous dire pourquoi, mais j'aurais aimé ça qu'il le dise avant, puis qu'il ait plus confiance dans le choix, puis qu'il arrive 2 semaines avant, mais c'est une autre histoire.
Ben, c'est un bon sentiment pour tout le monde, pour lui, pour ses coéquipiers étaient contents pour lui, puis c'est pour nous aussi. C'est pas nécessairement de justifier, mais c'est pour démontrer que c'est un gars qu'on voulait avoir pour nous aider dans les circonstances qu'on est dedans. Puis moi, tu sais, à part de son but, je pense quand même il fait des bons jeux, il a fait quelques bonnes passes qu'on a eu des chances de marquer. Je te dirais, ses présences sur la patinoire sont courtes, il est discipliné, etc. Alors, tu sais, moi, je trouve qu'il achète beaucoup à ce qu'on essaie de faire avec l'équipe.
Les gars, c'est un élève modèle. Mais les rapports, puis c'est là je vais attaquer un autre sujet. Est-ce qu'on prend des raccourcis quand on parle d'un gars qui a changé de destination? Ou tu sais, comme là, le gars, ça n'a pas marché à Los Angeles. Là, c'est un indésirable, c'est un ci, c'est un ça, puis tout ça. Puis tu sais, combien de gens l'ont vraiment vu jouer? Puis qui comprend le contexte qui est en vigueur à Los Angeles? Ryan O'Reilly est venu dans la discussion, c'est la même affaire. Ryan O'Reilly a fait quelques organisations, puis il vient de gagner la Coupe cette année avec les Blues. Des fois, vous n'avez pas l'impression qu'on peinture les gars dans le coin avant même en tout cas,
Thomas Tatar.
Je vais le dire, là, je parle pas à mon nom. Je parle de ce que j'en en général, là. Tu sais, c'est comme c'est facile de tuer le sujet avant même de l'avoir vu jouer.
Ben, puis c'est quoi? Puis à l'inverse, là, on parle de ceux qui sont ici comme Tatar et Kovalchuk, mais on pourrait presque dire la même chose de Max Pacioretty quand il est parti de Montréal, là. Lui aussi, il y a des gens qui disaient, mon Dieu, est-ce qu'il est encore un marqueur de 30 buts? Qu'est-ce qu'il lui reste à donner? Pourquoi Vegas lui donne ce contrat-là? Puis là, ben, finalement, regardez, il s'en va au match des étoiles. Puis
David Perron a-t-il pas été vu comme un mal aimé? Il serait venu à Montréal en courant. Qu'il l'a pas. Écoute, je le sais qu'il serait venu. Il nous l'a dit, puis je le sais qu'il serait venu. C'est clair qu'il serait venu, c'est son rêve. Écoute. Mais il y a quelqu'un qui l'a regardé de haut. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait leur devoir de dire, oh ouais, mais lui, on sait bien. C'est drôle, c'est la même équipe qui a signé ses trois contrats. Il n'a pas rien que des défauts.
C'est la nature humaine. T'sais, c'est la même chose dans le monde du travail. On travaille dans le monde des médias. Je veux dire. Puis on a des préjugés sur les gens qui travaillent dans les autres médias. Puis avant d'approcher, je suis sûr que c'est comme ça dans toutes les entreprises où les talents là, sont publics. Là, mais c'est la même chose dans le sport. Même nous, on a des préjugés envers les joueurs, ben les dirigeants y en ont. Puis,
les gars, est-ce qu'on fait un moment zen pour promettre d'être de meilleurs humains demain?
Non, mais de moins jugés.
Je veux pas te couper, Alex. Qu'est-ce que tu voulais pas?
Ben, je veux juste finir là-dessus, mais tu sais, comme David Perron, c'est un super bon cas. Le Canadien, il l'a pas repêché quand il a eu la chance de le repêcher. Puis ils ont probablement eu d'autres chances.
Et même comme joueur disponible.
Ben, c'est ça. Alors, ben, tout simplement, ils l'ont mis dans une case de genre, ah, on est passé, on n'y touche plus, puis on passe à un. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie, puis ça fonctionne comme ça dans pas mal toutes les entreprises.
Ben, ça, c'est l'art de trouver aussi des bijoux, là, comme on dit, des diamonds in the rough. T'as des gars dont la valeur est à la baisse. On peut penser à Anthony Duclair qui a offert lui-même ses services aux Canadiens. Les Canadiens, ils ont des points intéressés.
Un autre, non.
Exact. Subban, présentement, est dans ce trou-là.
Robin Lehner.
Regarde Tortorella, le tort qu'il a causé à Anthony Duclair l'an passé. En voulant dire, je sais pas s'il comprend.
Exact.
Honnêtement, là, c'était limite, ça, là. C'était limite.
Exact. C'est exactement ça. Donc, t'as des joueurs qui se retrouvent dans des situations où ça fonctionne pas. Subban est présentement dans une situation où ça fonctionne pas avec les Devils. Est-ce que quelqu'un va le ramasser à rabais, puis vas-tu se réinventer ailleurs? Moi, je portais à croire que oui. Donc, c'est ça, c'est trouver. Il faut que tu achètes bas, puis tu vendes haut, puis il y a des opportunités à saisir. On a pris une chance présentement avec Kovalchuk, ça fonctionne bien.
J'entends, et par rapport aux gars qui ont de l'âge, les gars, on avait cette discussion-là un petit peu avant d'entrer dans le podcast, puis Alexandre, t'as abordé le sujet. On est dans une ligue. C'est peut-être spectaculaire, mais je pense que c'est une question d'argent. C'est sûr que Kovalchuk est revenu dans la Ligue nationale, je pense, autour de 3 millions, son salaire à Los Angeles.
C'était 6. C'était 6 millions.
Par année?
Par année, okay,
quand même.
Ouais, c'est quand même un bon contrat.
C'est considérable. Ouais. Mais la plupart des vétérans se font pousser vers la sortie parce qu'ils coûtent plus cher. Pas parce qu'ils sont moins bons, parce qu'ils coûtent plus cher que les remplisseurs de chandail qui sont pas prêts pour la Ligue nationale, qui, au lieu de jouer dans la Ligue américaine, jouent dans la Ligue nationale de façon prématurée. Ça coûte des jobs, ça.
Ben, c'est sûr qu'on remplit des chandails. Dans les années 90, début des années 2000, on remplissait les chandails avec des joueurs âgés. Je prends le cas des Islanders, j'en parlais ce matin avec Bruno Gervais, puis il me disait, à toutes les années, nous, on avait un bon noyau jeune. Écoutez, là, en 2008 puis 2009, là, 2008 et 2009, deux repêchages, là, les Islanders, ils ont eu 16 gars qui ont joué dans la Ligue nationale. En deux repêchages, ça en a fait des jeunes. Maintenant, il fallait qu'ils remplissent l'alignement avec d'autres joueurs. À chaque année, il disait, on embauchait 5-6 joueurs autonomes, des gars qui avaient 35 ans. T'sais, il dit, c'était comme ça qu'on remplissait les chandails. Il était pas bon. Puis ils voulaient plus s'entraîner, puis ça a fait un schisme dans l'équipe qui a fait qu'ils n'ont pas gagné. Mais présentement, c'est le contraire. On remplit des chandails avec les jeunes parce qu'ils coûtent 925 000 $ sur la masse salariale. Mais il y a des gars qui n'ont pas à faire être dans la Ligue nationale. De la même façon qu'il y a 15 ans, il y a des gars de 35 ans qui n'avaient pas rapport d'être dans la Ligue nationale.
Puis l'aspect que je trouve le plus intéressant, les gars, puis vous l'avez vu, là, c'était des images qui valent 1000 mots, là. Vous avez vu la réaction au but de Kovalchuk? Je veux pas tomber dans le sentimentalisme, là. Mais moi, j'aime ça voir des images comme ça. Puis j'aime ça voir les gars contents, même le premier but des trois d'un match qu'ils ont perdu quand, Lekkonen, Marc puis Weber. Tu te dis, tu sais, ces gars-là veulent jouer, veulent gagner, là. Leur but, c'est pas de perdre ce match-là, là. Mais là, c'est un but gagnant, Kovalchuk. Fait que c'est plus facile. Mais vous avez vu, puis ça, c'est la plus-value qu'un gars comme Kovalchuk amène. Quand, moi, je prétends qu'un gars de cette envergure-là, on l'avait entendu dans les commentaires, mais là, c'est les langues, c'est les gestes qui parlent. Vous avez vu comment c'était chaleureux, les gars, les accolades? Ouais, même absolument. Price, qui est le dernier. C'était pas juste, non, c'était un à un avec tout le monde. Le gars était content, tout le monde, comme Claude, il l'a dit. Puis ça, ben c'est plaisant. Puis Marc Bergevin fait attention à ça parce qu'il veut pas quelqu'un qui va venir miner ou contaminer son vestiaire. Mais un gars qui se comporte comme ça, il fait tout sauf contaminer.
Ben, surtout à 700 000 avec un contrat two-way, comme on dit, s'il fait pas l'affaire, tu le laisses partir.
Exact.
C'est aucun risque. Selon, en tout cas, de ce que je sais, c'est le joueur chez le Canadien qui gagne le moins d'argent. Oui. C'est le plus bas salarié de l'équipe.
Non, tous les rapports,
il n'y a aucun risque. Là.
Et tous les rapports de dépistage, en fait, nous disent aussi que c'est un excellent coéquipier. C'est pas du tout quelqu'un qui a une mauvaise réputation.
On savait. Pis, c'est ça. Ils vont pas venir empoisonner ton groupe.
Pis, exactement. Puis quand on a vu l'enthousiasme en fait des autres joueurs après le but là, contre les Sénateurs, ça envoie aussi le message de dire c'est un joueur qui est très apprécié. Puis ça voulait un petit peu dire hey, bienvenue à Montréal, Elia. T'es avec nous. Puis on est content pour toi.
Cela dit, je veux pas faire le rabat-joie, mais je vais le faire pareil. tout ça, c'est bien beau. Puis c'est tant mieux pour le Canadien, tant mieux pour le groupe de joueurs d'avoir cette belle histoire-là. Mais je pense que le plus grand service que Kovalchuk pourra rendre à l'équipe, soyons réalistes, là, je crois pas que à la date limite des transactions, le Canadien va être de retour dans la course aux séries.
Tu l'échanges?
Tu l'échanges, puis ça te rapporte peut-être un choix de trois. Si vraiment ça continue à très bien aller.
Tant qu'à ça.
C'est un choix de trop ramassé à terre, on s'entend.
Non, mais c'est un choix de trop. Le problème, c'est que le Canadien, là, des choix de repêchage, ils en ont déjà beaucoup. Je sais pas s'ils pourraient. Tu sais, je pense que cette année, là, on devrait essayer à la date limite des transactions d'aller à contresens de la tendance normale d'une équipe qui fera pas les séries et qui vend. Oui, tu vas laisser partir quelques joueurs qui font pas partie de ton avenir, mais pourquoi pas profiter de la date limite? J'en ai parlé un petit peu dans le podcast la semaine dernière. Profiter de la date limite des transactions pour renflouer, d'aller chercher quelques joueurs de la Ligue nationale qui vont pouvoir t'aider l'année prochaine et peut-être même dans les années suivantes. Donc, acheter pour l'avenir et non pas pour tout de suite, mais au moins, ça fera en sorte que tu aurais une certaine excitation. Les gens diraient, bon, on a une fin de saison, on fera pas les séries, mais je suis curieux de voir ce que tel joueur et tel joueur va nous amener parce que ça va nous donner une idée pour les années à venir. Donc, étant donné que durant l'été, on peut pas mettre la main sur des joueurs autonomes, faisons-le via des transactions où les joueurs n'ont pas de clause dans de non-échange, qui vont être forcés d'accepter la transaction, de s'en venir ici. Et si Kovalchuk est à l'aise ici puis connaît une bonne fin de saison puis demande, je sais pas moi, 1,5 million l'année prochaine ou 2 millions, donne-y puis, écoute, le quand je compare à un paquet de gars qui sont en bas de la liste, puis tu sais, quand Drouin se blesse, puis après ça, tu tombes à Nick Cousins, là, ça fait mal. Ça fait mal. Mais si t'as une couple de gars pour boucher des trous, là...
Je comprends qu'à 6 millions par année, c'était une autre question. C'était une autre question. Je sais pas comment il va coûter l'an prochain, comment lui va décider qu'il veut. Tu sais, il n'y a pas besoin de ça, mais je sais pas comment il va exiger. Mais c'est certain que je suis ouvert à l'idée de le ramener s'il y a une présence si positive.
Je trouve qu'une meilleure stratégie pour le Canadien que d'échanger Kovalchuk pour un... Tu sais, d'abord, si le Canadien a un choix de troisième contre Kovalchuk, tu le fais les yeux fermés, là, parce que je pense que c'est très bien évalué, Kovalchuk. Je pense que le Canadien a beaucoup de choix au repêchage. Hein. Il y en a 12 dans le prochain repêchage. Ça va faire 40 dans les 4 dernières années. Hey, t'as juste 50 spots que tu peux signer. Là. Fait qu'à un moment donné, il y a plein de ces choix-là qui sont faits. Puis ils peuvent même pas les signer. Ils n'ont même pas l'espace, en fait.
Sinon, tu t'en sers pour te monter.
Exactement. Ben, on pourrait voir, par exemple, Kovalchuk plus un choix de quatrième, par exemple, pour un choix de deuxième.
Ouais.
Mais ça, le Canadien a à gagner d'essayer de. Pairer leur choix avec un joueur pour monter un petit peu. Puis, mine de rien, là, c'est en accumulant des choix de deuxième ronde que là, tu es capable de monter pour avoir un deuxième choix en première ronde.
Ouais, avoir deux choix en première
ronde. Je vois plus le Canadien faire ça. Je pense que ça serait difficile, Jérémy, d'acquérir des joueurs entre 28 et 32. C'est-à-dire, il faudrait que le Canadien, pour avoir des joueurs entre 28 et 32, donne des joueurs qui ont moins de 24.
Un cas semblable, c'est Jordan Wheel. Il a été acquis dans Mike Riley il y a 2 ans. T'sais, c'est des acquisitions qui ont amené les joueurs. Ouais. Sauf que les gars disponibles dans pareilles circonstances. Évidemment, c'est des
gars
sur qui on a démissionné.
Il y en a plein qui ont des clauses de non-échange. C'est ça qui complique la donnée. Ouais. Mais le Canadien rentre dans la fenêtre de la date limite des transactions avec des outils en main. T'sais, ils ont de l'argent que plusieurs équipes n'ont pas. Ils ont de la place sous le plafond salarial. Ils ont des jeunes joueurs qui peuvent intéresser certaines autres équipes. Et ils ont beaucoup de choix au repêchage. Donc, tu as des outils, tu as des cartes dans tes mains. Tu n'arrives pas tout nu à la date limite des transactions. Il y a plusieurs équipes qui aimeraient avoir ça.
Le modèle de ce que tu décris là pourrait être Joel Armia, c'est-à-dire qu'on avait pris le contrat de Mason,
on
avait donné Armia, mais c'est rare.
Moi, j'y crois pas.
C'est rare. Mais ça correspond exactement bon critère.
Mais tu sais, dans la dernière année, il y a juste eu deux échanges comme ça dans toute la Ligue nationale.
Il y a pas beaucoup.
Il y a eu Marleau, qui est d'ailleurs un excellent échange pour la Caroline. Puis, il y en a eu un deux. Ben, il y a eu Subban, mais en fait, même Subban, les prédateurs n'ont rien donné en plus de Subban pour l'échanger. Donc, ça arrive moins souvent qu'on le pense. On a beaucoup en tête cet échange-là de Yoel Armia, mais c'est pas la norme. Je le sais que Marc Bergevin a fait des téléphones tout l'automne pour essayer de faire un échange comme celui-là, exactement sur le même modèle. Il n'y a pas une équipe qui a
mordu. Mais c'est pas, ben, écoute, c'est pas obligatoirement une transaction où tu acquiers un mauvais contrat que tu avales puis tu mets de côté parce que tu as de l'argent. Mais tout simplement, là, je vais donner l'exemple de Jonathan Bernier,
ouais,
qui est le deuxième gardien avec les Red Wings de Détroit, qui gagne 3 millions de dollars, qui était quand même un très bon gardien numéro 2 de la Ligue nationale. Selon les Red Wings ont 3 gardiens. Selon moi, ils pourraient le laisser partir pour pas beaucoup d'argent. Il a 31 ans. Il est sous contrat pour la saison prochaine. Donc, pourquoi attendre à l'été pour essayer de te trouver un gardien numéro 2, ne sachant pas si ça va fonctionner, comme ça a été le cas les deux dernières années? Va le chercher tout de suite. Peut-être que ça te coûte un choix au repêchage, mais t'as un asset pour l'année prochaine.
Je sais pas si c'est Bernier, mais l'idée d'aller chercher un bon deuxième gardien, c'est sûr et certain que
j'espère que
les dirigeants ont appris. Mais il y a une chose qui va arriver. Je pense que toutes les équipes sont vendeurs et acheteurs, tu sais, parce que sont pas toutes rendues à même année sur leur plan de je sais pas combien d'années. Fait que c'est pas parce que tu vas liquider peut-être un Nate Thompson à une équipe qui veut un vétéran pour aller en série que tu iras pas acheter un gars plus jeune un peu dans le modèle que tu décris. Autre chose à ajouter là-dessus,
je pense que si le Canadien veut avoir un deuxième gardien, là, un deuxième gardien, ça coûte vraiment pas cher, là, présentement, dans la Ligue, là, ça va valoir un choix de 5 ou 6e. Il n'y a pas de marché pour les gardiens. Il n'y en a juste pas de gardiens qui sont échangés parce que les équipes les gardent parce qu'ils n'ont rien.
C'est rare,
ça, dit, le Canadien a déjà 10,5 millions de dollars à côté sur un gardien, là. C'est d'ajouter un autre 3 ou 4, là. Elle est rendue à 14 millions pour des gardiens de but, là.
Ça fait mal.
Ouf.
Mais en même temps, si tu continues à rester pris avec un coussin que tu dépenses pas, ben, tu peux bien t'en servir pour ça. Ça fait 3 ans que le Canadien a de l'extra, même en payant Carey Price. Même en payant Carey Price 10 millions et demi. Donc,
qui parlait des choix? 40 choix sur combien de temps, Alexandre? Tu disais le Canadien?
Sur 4 ans.
En incluant ceux
qui s'en viennent.
J'ai hâte de voir sur ceux qui sont pas exécutés. Il y en a 9 au prochain repêchage.
Il y en a 12, je pense.
On en a 12. Mais, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir des derniers repêchages. Mais à part les noms qu'on mentionne tout le temps, j'entends pas personne nous annoncer l'avenue de quelque chose de signifiant, à part Caulfield, Romanoff, l'étoile de Josh Brooks, semble-t-il, pour ceux qui le regardent plus souvent,
ça va prendre plus de temps que ce qu'on pensait.
Primo, hier, je sais pas si vous avez vu des matchs à Laval, Non, mais je veux en arriver, c'est avant de déterminer qu'un tel va être au niveau tel, on peut-tu les laisser jouer quelques saisons avant de prendre pour acquis que Romanov, par exemple, va être une merveille, avant de prendre pour acquis que Primo va remplacer Carey Price. Hey, on ne sait même pas s'il va s'établir régulier dans la Ligue nationale.
Moi, j'aurais une tendance d'aller dans le sens contraire. Si on était capable d'ajouter quelques joueurs de la Ligue nationale qui ont de l'expérience, oui, qui vont peut-être coûter 3-4 millions, je ne sais pas, mais de faire régresser, je dirais pas régresser, mais renvoyer certains gars en bas pour qu'ils fassent vraiment leur apprentissage comme il faut pendant quelques années.
Ryan Poehling, c'est des gars qui devraient être normalement dans la Ligue américaine.
C'est ça que je dis. Fait que si tu remplis des chandails avec des gars qui ont quand même de l'expérience de la Ligue nationale, qui te coûtent plus cher puis qui font en sorte que t'accotes un peu plus ton plafond salarial, mais tu peux renvoyer des jeunes en bas pour qu'ils fassent leur apprentissage. Présentement, dès que tu perds un gars sur les premières lignes, tu t'accotes sur ces gars-là.
Imagine que Jeff Petrie ou t'sais, les fans du Canadien qui veulent que le Canadien échange Petrie ou Weber, bon, c'est correct, peut-être que Petrie a une valeur. S'il y en a d'un des deux qui part,
tu le remplaces par qui?
Hey, là, Fleury va jouer sa deuxième paire. Josh Brooks a 3 ans. Oubliez ça, là. Je veux dire, ces gars-là ne sont pas prêts à avoir des 20 000. Ils ne devraient pas en avoir. Ça envoie un mauvais message, en fait, à ces jeunes-là, de dire, regarde, on n'a personne d'autre, fait que toi, on va te donner 20 minutes. Là, on va embaucher des joueurs cet été. Puis là, Josh Brooks, il va commencer la saison prochaine dans la Ligue américaine. Lui, il va être tout mélangé. Il va dire, ben voyons donc, moi, comment ça se fait que j'ai terminé la saison à Montréal, puis là, je joue à Laval. Je comprends plus exactement ce qui est arrivé avec Ryan Poehling. Puis je m'excuse, mais le cas de Ryan Poehling, ça a été très, 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 très difficile à gérer pour Joël Bouchard au mois d'octobre. Là.
Oui, puis tu sais, Ryan Poehling, en ce moment, comment il se sent, lui, quand il rentre chez lui le soir après un match? 0 point en 19 matchs.
Il y a des génies qui aimeraient ça qu'on le fasse jouer comme centre à place de Thompson.
C'est un marché public, quand même. De l'essayer quelques matchs, c'est une chose, sauf que là, quand ça fait 19 matchs et qu'il n'y a pas de points, peut-être que ça serait mieux qu'il aille en bas et qu'il donne une chance à Jake Evans.
Tous les joueurs du Canadien.
Oui, mais d'un coup, ça lui fait de la pépène. Puis que là, il t'aime plus.
Ouais, mais c'est
plus, des fois, on dirait qu'il
y a peut-être la peine aussi à pas avoir de points.
Mais tu sais, les gens qui veulent que Ryan Poehling joue plus, puis... Tu sais, OK, on va éliminer l'avantage numérique. Il n'y en a pas tant d'avantage numérique, fait que c'est pas juste pour lui, OK? On va juste prendre le 5 contre 5, là, OK, par 60 minutes jouées parce qu'il joue moins que les autres, là. C'est le joueur du Canadien qui tire le moins souvent au but. Puis je pense que dans tous les joueurs de la Ligue nationale repêchés en 2017, son année, c'est aussi le dernier, là, sauf erreur. Tu sais, à un moment donné, là, il en produit pas d'attaque. Puis en défense, c'est pas une super star encore. Il va peut-être le devenir. Mais il est moins 4 à ses 10 derniers matchs. Il est dans les pires joueurs du Canadien. Il devrait pas avoir des minutes comme ça sur la troisième ligne, à mon avis.
Puis surtout pas à Montréal.
Non.
C'est si tu fais bien les choses à Montréal, tu es une organisation de première classe, tu pousses pas tes jeunes.
Non, mais c'est là, dit, là, ils n'ont pas d'option.
Là, il y a des blessures, il y a un contexte particulier.
Il y a personne d'autre dans la... Tu sais, si c'est pas lui, ça va être Jake Evans.
Non, il y a un contexte particulier, c'est évident. Le Canadien a gagné un seul match en fin de semaine, puis je pense que...
Il a joué juste un.
Il a joué juste un. En fait, il a gagné un seul match dans les deux derniers mois. Non, dans les deux dernières semaines et demie. Mais là où je voulais en venir, c'est que... Je sais pas si ça peut repartir quelque chose. Voyez-vous le Canadien... simuler une tentative de retour dans le portrait des séries. Voyez-vous ça arriver? Puis c'est des performances qui vont dicter ce qui va arriver puis les décisions à prendre. Pas mettons qu'il en gagne 3 sur 4, puis bon.
Pas vraiment, parce que, écoute, t'as tellement d'absents qui sont...
c'est fini, tu penses?
Moi, je pense que c'est fini. Écoute, à moins vraiment que, par miracle, dans les prochains jours, t'arrives à coller 3-4 victoires, et là, ça donne avec la pause, et ensuite de ça, tu vas avoir des retours importants qui vont... des joueurs comme Drouin et compagnie. Moi, je pense que c'est terminé. Mais il faut pas placer non plus le Canadien dans la même catégorie que les Red Wings et tout ça. Si tu regardes le différentiel, par exemple, je pense qu'on est à moins 5. Ouais. Les derniers, là, c'est des moins 30, puis moins 40, puis moins 50.
Les trois, c'est moins 75.
Ben, c'est ça que je te dis. Faut pas les mettre non plus dans cette catégorie-là.
Ouais. Moi, c'est la donnée qui me fait croire, moi, que c'est terminé, c'est que le Canadien doit dépasser en ce moment 5 équipes. Ouais. Pour revenir en position pour les séries. Donc, tu sais, je disais, oui, tu peux dire, OK, 8 points, bon, si les bon,
Floride à 53 et 8 points.
Ben, c'est ça. Floride à 53, mettons que le Canadien gagne ses 3 prochains matchs, puis que les Panthers en perdent 3, tu te rapproches d'eux, mais les autres équipes, pendant ce temps-là, continuent à monter, puis c'est comme un peu une cible qui bouge constamment.
Et même si tu gagnes. Il y a quelqu'un qui va s'échapper là-dedans.
Ben, c'est ça. Donc, même si tu manques 3 matchs, même si tu gagnes 3 matchs de suite, ben, dans tes 5 équipes après qui tu cours, ben, il y a des chances qu'une de ces 5 équipes-là gagne aussi ses 3 matchs. Puis finalement, t'as pas vraiment rattrapé de terrain perdu.
Toronto est juste 2 points au-dessus de la 8e place, du seul même. Là.
Ouais, puis Morgan Riley est blessé pour 8 semaines. Mais moi, je pense que la difficulté du Canadien aussi, c'est son calendrier. Donc, soyons réalistes, là, pour que le Canadien revienne dans la course, il faudrait qu'il y ait 9 points sur les 10 prochains possibles. Donc, 9 points dans ses 5 prochains matchs. Ça commence à se faire contre les Flames qui ont gagné leurs 5 derniers matchs. Ouais. Après ça, ils vont avoir Blackhawks, bon, c'est prenable. Flyers, ça sera pas facile. Golden Knights et Capitals. Je vois plus 3 défaites sur 5 que 4 victoires et demie sur 5 dans ce groupe-là. Là. Et je veux dire, s'ils n'ont pas 9 points dans les 10 prochains, là, c'est mort. Ça va être enterré en plus d'être mort.
Mais j'espère qu'on va commencer à prendre des décisions dès la semaine de relâche. Il y a 2 ans, on se souvient que le Canadien était pas mal dans la même situation, puis on s'est dit, la semaine de relâche, je pense qu'on va commencer à voir quelques mouvements, des transactions peut-être, commencer à placer les choses pour l'année prochaine. Et finalement, ça n'avait pas été le cas. On avait attendu vraiment à la date limite là, pour procéder aux transactions. Moi, je pense pas qu'on devrait attendre. Faisons nos moves le plus rapidement possible.
Tu veux absolument pas voir revenir dans ce groupe-là. Le noyau comme tel, je pense que dans la mesure du possible, tu ramènes pas mal tout le monde. Là. Quand je dis noyau, tous les gars que vous devez considérer importants sans faire la liste, les quantités négligeables sans insulter les gars, mais que tu pourrais remplacer. Nate Thompson, pour vous, c'est un automatique. Il est parti ou il est utile une autre année?
Peut-être t'en auras pas de choix de première ronde pour Nate Thompson.
Non.
Il n'y a rien qui t'empêche, par contre, comme lui a vraiment l'air de se plaire à Montréal, il n'y a rien qui t'empêche non plus de l'échanger pour la fin de la saison.
Puis de le ramener.
Qu'il revienne, tu sais.
Donc,
ça n'empêche pas l'autre, parce que pour la fin de la saison, il ne te servira à rien. Donc, s'il te rapporte un choix de 5, ça sera ça.
C'est un nom exemple. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est une discussion plus facile sur Nate Thompson. Moi, je ne sais pas l'impact réel qu'il a sur son entourage.
Tu sais, des gars comme Will, Cousins, Thompson et tout ça, ça ne rapportera pas assez pour. Tu sais, à la limite, le Canadien, présentement, il a besoin de chandail. Besoin de chandail pour pas avoir à donner 20 minutes de jeu par match à Peeling, puis à Jake Evans, puis à Lucas Vaidemo. C'est ça l'enjeu présentement du Canadien. Pourquoi Sérieux, je comprends pas. On les donnerait pour des choix de septième ronde. Les gens les détestent tellement. Puis, tu sais, je m'excuse, Jordan Will, il vaut plus qu'un choix de septième ronde, là, fondamentalement. Là, en tout cas, il est meilleur que Lucas.
Puis si personne d'ailleurs le veut dans la ligue, quand il est à Laval, il peut venir te dépanner. Puis
exactement. Fait que moi, je pense que le Canadien a quand même besoin de garder des gars dans son chandail. Pour un petit peu pour revenir sur ce que Jérémy disait, tu sais, je pense que le Canadien, clairement, c'est le club le plus actif de la ligue, là, présentement. Ils viennent de faire quand même des transactions alors que personne d'autre en fait dans la ligue. Marc Bergevin a essayé d'en faire tout l'automne. Je pense que Marc Bergevin, lui, il souhaite faire des échanges le plus vite possible. Mais maintenant, tu sais, je me mets dans la peau de l'autre équipe. Il y en a qui ont avantage à attendre aussi jusqu'à la fin. La seule chose, par contre, qui peut vraiment avantager Marc Bergevin, c'est dans la division Ouest, où là, il y a vraiment une grosse compétition. Il y a juste 2 points d'écart entre les 5 premiers clubs, là, la division avec les Oilers, les Flames et tout ça.
Il y a beaucoup d'acheteurs potentiels.
Oui, beaucoup d'acheteurs dans ce groupe-là. Et beaucoup d'acheteurs avec des besoins que le Canadien peut combler. Des ailiers. Le Canadien, il y en a, là, des ailiers. Des gars comme Thomas Tatar, par exemple. Tu sais, ça serait un fit très, très bon, mettons, à Edmonton ou à Calgary, ou même peut-être moins au Golden Knights, mais à Edmonton et Calgary, ils ont vraiment besoin de monde sur des
mais
ailes.
Mais t'es conscient que libérer ou laisser aller un Tatar, ouais, je veux bien, mais je vois pas personne dans le système de recrutement ou de filiale ou à Laval qui vient prendre sa place là, qui va être capable de marquer 25-30 buts.
Pas là, mais c'est sûr que si...
Drouin va revenir en partant.
Ben c'est sûr qu'il faut pas oublier aussi que là, on regarde la formation à plein de trous à cause des blessures à Drouin.
Ben j'avais Drouin en tête quand même en disant ça.
J'ai quand même 3 gros alliés qui sont blessé, là, ça joue
Tatar,
dans l'évaluation.
Il y a juste 28, 29. Il est pas vieux.
Je vois pas pourquoi qu'on aurait le flow derrière de l'échanger.
Ben en fait, c'est plus si t'as une offre. Ouais. C'est juste que si un DG de l'autre bar qui perd la tête puis qui t'offre la lune, un choix d'un, puis c'est ça, un joueur à la... Prenons l'exemple de la transaction de Day-Louis quand Marc Bergevin se fait offrir Philippe Dano, qui lui était un espoir, mais quand même un espoir mature. Puis justement, dès l'année suivante, il était déjà centre top 6.
Je pense qu'on a tellement un manque sur les 2 premières lignes présentement, là, avoir des gars qui sont à 29 ans, donc à leur apogée, qui sont capables de mettre la rondelle dans le filet, ça t'en prend aussi. C'est pas garanti que tu échanges ton match Tatar puis tu ramasses un choix au repêchage puis que ce gars-là va devenir aussi bon que lui dans 3, 4, 5 ans. Non,
mais l'enjeu de Thomas Tatar, c'est qu'il devient joueur autonome l'année prochaine.
C'est un autre joueur qui est heureux ici, soit dit en passant.
Mais tu peux-tu régler ça en 2021?
Je pense que oui.
Mais tu peux aussi être heureux. Je fais juste souligner, là, parce que ça, c'est vraiment un aspect sur lequel on pense souvent en fonction de l'équipe, mais peu souvent en fonction du joueur. Il peut être bien heureux à Montréal, mais si on lui offre de jouer à côté de McDavid, il va être bien heureux aussi.
Je comprends,
c'est
mais...
dangereux.
Moi, je pense que Tatar, si tu négocies avec, je pense qu'il va être ouvert à signer un autre contrat.
C'est parce que l'autre affaire, il est à 4,8 pour 25-30 buts.
Pour une autre saison.
Moi, je le garde, puis j'attends à l'an prochain, au trading deadline de l'an prochain.
Par contre, l'avantage, c'est que l'équipe, il y a beaucoup de valeur parce que là, il ferait 2 séries avec l'équipe qui l'acquérait.
Mais Alex,
c'est quand même une bonne valeur.
Je prends ton point sur Petrie. Je dis pas que c'est pas une bonne valeur, mais c'est une bonne valeur pour le Canadien.
Ben, Petrie,
à moins qu'il liquide.
Non, mais ça serait difficile d'échanger dans les circonstances actuelles, honnêtement. Là.
Bon, honnêtement, moi, je pense que le monde, c'est comme Kovalchuk. Le monde qui regarde le hockey, ils savent ce qu'il peut bien faire, puis bien entouré. Bon, moi, je pense que c'est un excellent défenseur encore, un excellent joueur de hockey. Il a ses défauts, il a tout le temps rondelle.
Ça serait difficile pour le Canadien de s'en passer.
Mais ton raisonnement, je vois pas pourquoi tu l'appliques pas à Tatar.
Ben, je trouve que le Canadien a quand même plus de profondeur sur les ailes qu'il y en a du côté droit de la défense.
Je demande à être convaincu. Mettons qu'on est dans un meeting et on veut faire le move. Convainc-moi qu'on a quelqu'un pour remplacer Tatar en ce moment. Je le vois pas, Alex.
Puis comme je te dis, moi, les gars que je laisserais partir, ce
le
sont
Conan,
les...
il est bon, mais il produit partie de vague
c'est
maintenant.
C'est sûr. Tu l'aimes mieux d'un troisième trio que dans le top 6. C'est sûr.
Puis t'as pas le feu, comme je dis, là, à moins d'avoir une offre. Mais c'est un cas intéressant parce qu'il y a déjà un club qui a donné un premier choix, un deuxième choix, puis un troisième choix pour l'avoir à une date limite de transaction. Et ça a pas marché comme on l'espérait à Vegas.
Mais tant mieux pour Détroit. Mais quand
encore,
je parle d'un léger qui
perd
la tête...
Il a récupéré sa valeur à Montréal et je ne sais pas quelle serait sa valeur marchande. Ça reste
Écoute, présentement, là, il est à 0.84 points par match. Là. Je veux dire, il y a des meilleurs sets que des gars comme Logan Couture puis Taylor Hall, des gars là, ou Mike Hoffman. Mike Hoffman aussi là, qui a eu un gros retour, là, pour lequel les sénateurs ont un gros retour. Et sa valeur est vraiment dans le sommet de ce que le Canadien pourrait avoir là, présentement. Là. Ouais. Moi, je pense qu'on pourrait être vraiment surpris. Puis c'est pas nécessairement des choix. Je suis pas sûr que les équipes y échangent presque plus de choix de première ronde. Mais tu sais, un espoir de 20 ans, 21 ans ou un joueur de 23 ans.
Ou un choix de premier tour protégé.
Ouais. Ou un joueur deuxième tour, plus un espoir secondaire.
Mettons que tu parles, là, j'essaie de m'ouvrir l'esprit de l'idée. Peut-être que si tu dis, je vais sacrifier un bon joueur qui est encore sous contrat pour l'an prochain dans le but de me rajeunir ou d'aller chercher quelque chose de spécial. C'est de tous les joueurs encore potables et sous contrat, c'est l'agneau que tu sacrifierais, mettons, ouais, pour ben, réaliser une transaction?
Pour moi, c'est clairement... Tu sais, oui, oui.
Toi, ouais, ben, oui. Même chose, parce même que chose. C'est ça, pour des raisons de profondeur à l'aile et aussi pour des raisons que s'il y a une position en termes de hiérarchie, s'il y a une position, ça me dérange moins de sacrifier, c'est aussi à l'aile. Parce qu'on sait les positions importantes, c'est défenseur, c'est au centre, puis ensuite de ça, à l'aile, ben garde, tu t'arranges, puis c'est pas exclu que Max Domi retourne à l'aile.
Dans les alliés, mettons, Drouin, tu cherches ton top 4 d'alliés, tu sais, t'as quand même Gallagher, là, Drouin, ouais, ça c'est sûr, Armia, clairement pour être sur ça. Maintenant, t'as Kovalchuk, Lekkonen, Suzuki joue à l'aile quand même, tu sais, Suzuki,
Domi, flanc gauche. Flanc gauche, t'as Lekkonen, Drouin, t'as Tatar.
Domi pourrait jouer à gauche,
c'est ça, exact.
Ouais, mais Domi, t'es au centre. T'as-tu quelqu'un pour le remplacer au centre?
Suzuki.
Non, mais.
Ces deux-là sont interchangeables.
T'as là, puis, tu sais, Caulfield s'en vient à droite aussi dans deux ans, mettons.
À droite, il y a moins de. Écoute, t'as Gallagher encore, puis pour. Armia. Armia est souvent blessé, par exemple. Je regardais son. Deux ans à Montréal, l'an passé, il y a eu une blessure qui semblait pas si grave. On l'a pas vu pendant une couple de mois. J'espère que ça va l'avoir plus vite.
Moi, je touche pas à Tatar. Moi, je le garde, puis j'essaie de l'extensionner. Moi, je le garde.
À combien? Comment, je sais pas comment il peut aller chercher.
Mais s'il veut 5.
5 fois 5.
Ça va être plus que 5. Ces statistiques sont,
ça va être au moins 6, là.
Les comparables sont même les comparables sont meilleurs que 6,
là, présentement. 4 ans à 6, là, moi, j'aurais aucun problème.
Regarde,
Mike Hoffman,
qui a le même âge puis des statistiques inférieures, a signé à quoi? Genre 8 ou 9 millions par année pour 8 ans ou une affaire comme ça, là. C'est ça, là.
En tant que ça?
Ben oui, mais je vais te dire tout de suite.
Non, mais écoute, je pense que des gars de 29 ans qui sont dans leur... On va le dire, la 29 ans, t'es dans ton apogée, qui produisent comme lui, qui coûte 4,8 millions, il y a personne qui veut se débarrasser de ça. Là.
OK, Mike Hoffman était moins que ça.
Non, mais c'est
mais il était
sûr. Moi, les gars,
il s'en va joueur autonome.
Moi, les gars, j'essaierais de liquider, ce sont les joueurs comme les Nate Thompson, qu'on a mentionné tout à l'heure, des vétérans qui jouent pas sur tes trois premières lignes, puis c'est tout. Puis après ça, j'essaierais d'ajouter des joueurs pour remplir des chandails et renvoyer mes jeunes en bas à Laval. Moi, ce serait ça ma stratégie.
Les gars, avez-vous vu, c'est pas le temps des pommes pourtant, mais je pense que Zach Cashin pensait que Matthew Tkachuk était un pommier. Après quelques mises en échec douteuses, mais qui semblaient limite, mais légal, Cashin a vraiment pété les plombs. Je sais pas si vous avez vu l'image, ouais, ceux qui nous écoutaient actuellement, je sais que vous l'avez vu, et je suis convaincu que vous l'avez vu, ceux qui nous écoutaient, parce que ça veut dire que vous êtes des gros amateurs de sport, vous écoutez le podcast, vous écoutez Sortie de zone. Qu'en avez-vous pensé? Ça soulève bien des questions. Un joueur qui frappe de façon limite comme Tkachuk, devrait-il accepter de laisser tomber les gants pour répondre de ses actes? Tout de même légaux, semble-t-il. Et Cashin mérite-t-il une sanction supplémentaire pour avoir agité le pommier comme il l'a fait? C'était quelque chose.
L'affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est que Cashin est bien tombé. Parce qu'il aurait pu aussi tomber la tête dans la bande. On s'entend, là, de la façon dont il tombe, la tête ne lui rentre pas dans la bande, mais ça aurait pu être le cas.
Tkachuk aussi, quand il s'est fait brasser, ça aurait pu être dangereux pour sa tête.
Oui, mais je peux comprendre Cashin qui se dit, pourquoi tu me frappes de même? Tu sais, la mise en échec, là, on le voit, là, c'était pas pour séparer le joueur de la rondelle, c'était pour y faire mal, puis ça aurait pu être grave. Donc, je peux comprendre que Cashin perd la tête momentanément, mais ensuite de ça, il est peut-être allé un peu trop loin, là. Quand il lui a donné les deux premiers coups, puis il l'a sacré à terre, de le relever, puis en donner deux autres, puis il refaire encore la pirouette. Il est peut-être allé un peu loin, mais tu sais, c'est des genres de mises en échec qu'on a essayé d'éliminer dans la Ligue nationale, puis celle-là, heureusement, ça n'a pas été grave pour Cashin, mais ça aurait pu l'être, donc je peux comprendre sa frustration, mais il est allé loin.
Moi, je trouve que c'est le genre de séquence, je suis un apôtre de la non-violence au hockey, je trouve que c'est le genre de séquence qui nous rappelle que ça rendrait beaucoup de service si les bagarres, j'aime pas le mot abolition des bagarres, parce que techniquement, les bagarres, c'est 5 minutes de pénalité, là, c'est pas permis pour autant, mais si les bagarres étaient plus sévèrement punies, peut-être que Zach Cashin ne perd pas les plombs et capote pas comme ça. Ce qui est formidable dans la NFL, par exemple, dans la NFL, les plaqués illégaux sont pas plus permis, mais c'est aux arbitres de les gérer. Si le plaqué est illégal, t'as une punition. Si le plaqué est dur, mais il est légal, il n'y a pas de punition, ça fait partie du jeu. Puis dans ce cas-là, la mise en échec, oui, c'était près de la bande, mais ça reste que Cashin à la rondelle. C'est corps à corps, c'est pas la tête qui est visée. Oui, ça paraît mal, là, c'est ça, parce que c'est près de la bande, mais il y a un arbitre qui est juste devant le jeu aussi. Là, l'arbitre, il est 10 pieds à côté des joueurs. Donc, je veux dire, si vraiment la mise en échec était illégale, ben que l'arbitre donne une punition. Puis si la mise en échec est légale, ben ça fait partie du jeu, ça frappe. Puis c'est je sais pas. Moi je trouve juste que c'est ça, que si une bataille venait par exemple avec une suspension
automatique comme scène, qu'on n'ait pas vu ça maintenant.
Ben qu'on n'ait pas vu ça et que c'est ça, et que si c'était comme dans la NCAA que t'es suspendu automatiquement le prochain match par exemple, ben là t'es Zach Cassian, tu y penses deux fois avant de sauter un plomb, parce que Zach Cassian c'est un joueur important pour les Oilers et je pense pas qu'il puisse se permettre de pas être avec son équipe, là, d'être suspendu automatiquement.
Moi, je suis un peu entre vous deux, mais je suis un petit peu comme Guillaume, là, à part de la non-violence, là, clairement, je déteste ça. Ceci dit, Tkachuk, ces deux coups, on va dire qu'ils étaient légaux, là, c'était, tu sais, je veux dire, les gars, des fois, il y avait même pas la rondelle. Puis, tu sais, Tkachuk, il rentre dans tout le monde, tout le temps, c'est un train, c'est son style de jeu. Un des problèmes que je trouve, c'est qu'il est jamais puni pour ce qu'il fait. Puis, ben, qu'est-ce qui arrive quand les joueurs sont jamais punis? Ben, ceux qui sont sur la glace, ils se rendent justice. Puis, je suis convaincu que c'est ce qui est arrivé à Tkachuk. Il a dû se dire, regarde, les arbitres nous protégeront pas pour le reste du match, là. Ben, moi, il lui a passé le message.
Alexandre,
passé,
je peux pas être plus d'accord avec toi. Puis, Guillaume, à ton propos, je t'écoutais avec intérêt sur la NFL. Tout ce que tu dis, c'est bon puis c'est vrai, mais c'est pas arbitré pareil. Le football puis le hockey sont pas arbitrés de la même façon, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a toujours eu de la bagarre un peu dans le hockey, parce qu'à un moment donné, les gars se disent exactement ça, puis on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Moi, je regarde ça avec mon fils du milieu, là, puis il dit « Ouais, ben, il l'a mérité, un peu. » Tu sais, honnêtement, je fais un sondage auprès des joueurs de la Ligue nationale, anonyme. Combien d'entre vous pensez que Tkachuk, Tkachin, là, il a bien fait.
Il a bien fait.
D'après moi, c'est du 80% et plus en faveur de Tkachuk.
100%.
100%.
Regarde, moi, là, j'haïs ça, la violence, OK, puis je vois à peu près 10 games par semaine parce que, bon, mes gars jouent et tout ça. Et là, ils sont rendus midget dans un niveau où il y a de la mise en échec. Et 100% des matchs où l'arbitre, là, mettons, passe à côté 3-4 fois là, de mise en échec.
Ça dégénère, hein?
Non, mais ça dégénère, puis pas un peu.
Vite.
Non, mais c'est ça. Pas un peu, là. Ouais. Je veux dire, des suspensions de 3-4 puis 5 matchs, là, tu sais. Puis moi, j'aime l'idée de suspendre automatiquement quelqu'un qui se bat.
Mais, ça changerait les
mais
choses.
J'ai déjà écrit là-dessus, moi, j'irais plus loin, mais il doit y avoir certains types de pénalités, des 2 minutes ou des 5 minutes, comme les coups qu'a fait Tkachuk, qui n'ont aucun rapport là, avec la rondelle. Là. Ces punitions-là devraient être punies plus sévèrement. Puis j'ai vu quelque chose de vraiment intéressant dans un tournoi aux États-Unis où tu n'as pas le droit de dégager en désavantage numérique.
Ouais.
Si tu dégages, tu reviens
ben ça,
dans la zone.
Ça. Mais il y aurait beaucoup de mises en jeu.
Non, mais tu sais quoi,
oui.
La LHPS au Québec le fait dans le réseau scolaire avec succès, tu sais. Mais tu y penses deux fois avant de faire vraiment un coup de cap. Tu sais, une punition, mettons, pour instigateur.
Moi, il y a plusieurs choses que je me suis dit que, tu sais, si la Ligue nationale voulait régler certains problèmes, c'est de différencier une punition de violence et une punition qui n'en est pas une.
C'est ça, exactement.
Tu me fais trébucher, 2 minutes, ça va. Tu lances la rondelle dans les gradins, 2 minutes, ça va. Cinglage, 4 minutes.
Absolument.
Bon,
tout à fait.
Ça manque de nuances. Tellement, comme. Puis je vais retourner au football.
Ben oui.
Tu sais, t'as des 5 verges, t'as des 10 verges.
Exactement.
T'as des 15 verges.
Exactement.
T'as une pénalité. Les autres, c'est des 2 ou des 5. Tu chinques. Hey, le gars, il saigne pas. Il m'a un coup de bâton. Drette sa gueule. En quoi ça vaut pas un 4? Tu sais, c'est
compliqué. Combien de fois les punitions par bâton élevé, on les voit pas, puis ça passe tout droit. En tout cas, des fois, ça devrait être des 4 minutes. Mais de différencier une punition qui est une punition de violence et une qui n'en est pas une, c'est pas normal que tu lances la rondelle chez les spectateurs, 2 minutes, tu sacs un coup de coude dans la face d'un gars, 2 minutes.
Ou la punition de mise au jeu, là, que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi les gars sont punis mise au jeu.
deux minutes depuis le temps qu'il y a ça, tu sais.
C'est clair que si on recommençait le sport à zéro, là, c'est clair que ça serait pas pareil. Serait les punitions seraient modulées, là.
Il y a une dame qui m'a déjà dit il y a bien des années, Mario, when there's a will, there's a way. Mais, non, mais quand il y a une volonté, il y a un chemin pour arriver à ce qu'on veut faire. Et c'était pas du tout tendancieux, c'était une discussion d'affaires. Et donc, la Ligue nationale, clairement, aime ça des gars qui se mouchent le visage après un hors-jeu. Ils aiment ça, avoir ces scènes-là. Ça entretient le climat d'animosité qui, je pense, anime la nostalgie de quand ça dropait. Ouais. Parce que s'ils n'aimaient pas ça, comme les règlements vous venez d'évoquer, c'est réglé. Hey, un niaisage après un hors-jeu, c'est un 2 minutes, mon fils. Tu t'en vas. Il en donne une fois de temps en temps, mais c'est rare.
Non,
c'est
mais combien de fois, là, on voit, justement, on pourrait facilement, là, après une scène sur la patinoire, un coup de plus, un un double échec de plus devant le filet. Ou la main dans le visage. Tu n'as pas d'affaire à mettre ta main dans le visage de quelqu'un.
Mais comme tu dis, les gars, ils savent, ils se payent la traite. Ils savent que ça va être toléré. Mais les autres, tu dis, c'est fini.
C'est fini.
C'est fini. Fais comme au soccer ou à limite au basket. Mais tu sais, au soccer, tu as une accumulation de cartons pendant la saison. Après, je pense que c'est comme 5. Ou en tout cas, après 5 cartons, tu rates un match. Hey, sérieusement.
Les cartons au soccer.
Non, mais après 3 batailles, sérieusement, t'en sors un match. Même chose au basketball, les punitions sont pas toutes modulées pareil. T'as des fautes techniques qui valent plus cher. Puis après 8 fautes dans une demi, ou ça peut être changé, mais quand j'étais petit, quand t'avais 8 fautes dans la demi, après ça, à chaque fois que tu faisais une faute, t'allais lancer. Tu sais, ben, dans la Ligue nationale, ça pourrait être modulé. Je comprends que les règlements sont compliqués, mais si t'as un département qui veille à la sécurité des joueurs, merde, occupe-toi de la sécurité des joueurs. Là.
Les gars, je comprends pas comment ça se fait qu'ils nous confient pas un comité. Un comité compétition sécurité des joueurs. On va appeler notre ami Stéphane Quintal. Il est au bout. Non, une autre fois, on va s'en reprendre. Ah ben, est-ce qu'on a fait le tour de cette question-là, les gars? Mérite-t-il? Parce que la seule affaire, si Cashin, je sais pas s'il va y avoir une sanction supplémentaire, non. Mais tu peux pas... Tu sais, même si Ketchuk a pas été pénalisé sur la glace, à un moment donné, ce comportement-là, à répétition... Tu peux pas, à un moment donné, pas te faire punir par quelqu'un.
Ben, c'est ça. Ben, c'est... ça aussi,
tu sais. Je sais même pas Guillaume, ses coéquipiers. Tu sais, ils ont gagné la game un peu à cause de Ketchuk. Mm-hmm. Tu sais, veux pas, il a placé Edmonton en désavantage numérique 2 fois. Fait c'est le héros. Mais honnêtement, là, c'est un match de saison régulière. Je sais pas si les gars sont si fiers que ça.
C'est sûr que des fois, là, ça doit leur en donner beaucoup à gérer. Mais pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est sûr aussi que l'arbitre a son rôle à jouer pour gérer la température, par contre, du match. Puis, tu sais, je le répète, à mes yeux, c'était quand même une mise en échec relativement légale. Il était peut-être dans la zone grise, mais bon, pas qu'il méritait d'être puni pour la mise en échec comme telle, mais par contre, il y a un contexte. Et là, si ça fait 2-3 fois qu'il pince le même joueur, qu'il pince fort, est-ce que tu peux peut-être lever le bras automatique puis là, appeler une punition de rudesse, quelque chose comme
absolument.
Ça? Mais tu sais, une façon de, de baisser un peu la température quand tu vois que c'est en train de
mourir. Entendons-nous que Ketchuk frappe McDavid ou Drysdale plutôt que les joueurs qui a frappé, puis c'est une punition. Là, c'est juste parce qu'il frappe des gars de 3e puis 4e ligne ou de 3e paire. Là, il y en a pas.
Des fois, on a de la misère à suivre. Tu sais, des fois, la rondelle, là, ça fait 1 puis 2 secondes qu'elle n'est plus là. Puis là, le gars, il frappe. Puis tu dis, coudonc, il n'y a plus de puck là. Ça devrait être.
Puis il se donne un élan, là, je veux dire, pour aller le frapper, en tout cas.
Tu dis, je complète la mise en échec. Oui, mais tu peux compléter jusqu'à quand la mise en échec.
Non, c'est comme quand il fonce accidentellement dans un filet adverse. Ça va y arriver souvent dans une carrière. C'est un espèce de Claude Lemieux. Je sais pas si la comparaison est bonne, mais tu sais, c'est un bon joueur. Même Cashin l'a dit. C'est un bon joueur de hockey, là.
C'est juste
que quand tu joues comme ça, il est comme...
C'est tout un genre. Je pense que
quand tu joues sur le bord de la limite tout le temps, puis Gallagher, ça, il a fallu qu'il l'apprenne avec le temps. Ouais. Peut-être que Ketchuk, ça va être la même chose dans 2, 3, 4 ans. Il va peut-être un peu tempérer.
Mais Gallagher n'avait pas ce pouvoir d'agresseur-là, n'avait pas cette puissance-là.
Ouais,
je comprends ce que tu disais.
Il n'était pas dangereux.
Mais Ketchuk, lui, a le
Sauf que je pense que Gallagher, à un moment donné, les arbitres se sont passés le message.
Il a cleané sa game,
Il a vraiment nettoyé
son jeu autour du crease.
Je pense que Maxu Ketchuk, c'est ce qui va arriver. T'sais, là, ça a vraiment mis le spotlight sur lui, là, ce qui est arrivé. Puis, je pense que les arbitres vont être plus sévères dans les prochains matchs pour pas justement que ça soit produit. L'autre chose, c'est quand ils vont jouer contre les Oilers, la game va commencer, puis il y en a un qui va aller le chercher.
Je pense que dans la NFL, il y a une punition qui s'appelle Unnecessary Roughness. Là.
Ouais, c'est bon.
Dans la Ligue nationale, là, il devrait y avoir une punition d'Unnecessary Roughness. Je sais pas comment on pourrait traduire ça, force excessive ou quoi que ce soit, ou dans n'importe quelle séquence de jeu, si l'arbitre juge que le geste que tu viens de commettre, même si dans les règlements de la Ligue, c'est légal, t'es allé à l'extérieur de l'esprit sportif, puis tu mérites d'aller t'asseoir au banc des punitions, donc... C'est ça.
Juste avant de passer au prochain sujet, un clin d'œil à la communauté italienne de Montréal avec la nomination de Mario Cecchini et de Danny Macchiosia.
Ouais, Forza Italia,
directeur général des Alouettes de Montréal. Ce qui devait
là ce
arriver,
matin au point de presse.
Ben oui, c'est une petite parenthèse.
Deux Italiens québécois, très fiers d'eux.
Ben oui, Marco Scandella qui débarque à Montréal.
Yes,
la communauté gallo-montréalaise prend le contrôle.
Ceci est un podcast hockey, mais plein d'amour pour toute la communauté sportive.
Complimenti.
De Montréal. un mot sur notre dernier sujet, Ray Shero, qui a perdu son travail comme directeur général des Devils du New Jersey un mois après avoir lui-même remercié son entraîneur. Il a pourtant, et je le dis en référence à ceux qui vantaient, ceux qui avaient été très actifs cet été en contradiction avec l'inactivité, entre guillemets, de Marc Bergevin. Activité veut pas toujours dire succès, et la preuve, on l'a d'en face. Puis en même temps, il y en a qui se disent, hey, comment ça se fait que Chiro se fait congédier, puis Marc Bergevin garde sa job à Montréal?
Ben, moi, personnellement, Ray Chiro, je pense que ce qui lui, au-delà des échanges, parce que les gestes qu'il a fait cet été, moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça quand même, puis Subban, je suis pas sûr à quel point que c'était prévisible que son rendement chute à ce point-là. Moi, je pense qu'il est plus rattrapé par ses premiers repêchages. Ah oui. Parce que là, ils ont vraiment... C'est facilement deux joueurs d'impact en moins qu'il y a. Ça, je reprends, là, c'est Mathias qui en parlait dans sa chronique oui. aujourd'hui. Donc, bon, 2015, Pavel Zaka au sixième rang. C'est pas... Tu sais, ça arrive des fois que tu manques ton coup au premier tour, mais là, tu parles sixième et les quatre joueurs repêchés après toi, un après l'autre, tous des joueurs d'impact. C'est Ivan Provorov, Zach Werenski, Timo Meyer, Mikko Rantanen. Hein. Les quatre joueurs après, des gros joueurs d'impact qui feraient toute une différence dans ta formation. L'année suivante, 2016, même chose. Tu parles 12e, Michael McLeod. Et puis, ben, après ça, qui sort? Charlie McAvoy, Jacob Chytrun. Tu sais, je veux dire, il y avait quand même
son
des joueurs d'impact
aussi
qui étaient là.
De garder Taylor Hall, je crois. Tu sais, après une transaction importante qui, là, que... Il s'en vient.
Gagné haut la main.
Exact.
Cette transaction-là.
T'es pas capable de le garder. Tu sais, t'es pas capable de le convaincre de rester, peut-être.
Ben, moi, je trouve, il y a deux choses, là, dans Ray Chiro. La première, en fait, c'est que, il y avait trois choix de première ronde. Trois premiers choix au total dans son alignement, là. Pensez, tu sais, nous, là, on parle de tanker pour peut-être avoir quelqu'un dans un top 5, là, ou pas en avoir un. Il y en avait trois. Il y avait Taylor Hall, Hughes et Escher. Ils sont 28e de la Ligue avant les matchs d'hier, quand même. L'autre problème, c'est, tu parles des repêchages, OK? Ils ont Escher, ils ont Zaka, ils ont Brett, Jesper Bratt, qui est pas un très, très fort trio, là, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, là, c'est ce qu'ils ont eu dans leurs années de reconstruction en 2013 et 2017, là. Les joueurs qui sont sortis de cette reconstruction-là, c'est ça. Quand on parle des dangers, là, de faire une reconstruction totale et pleine à Montréal en échangeant tout le monde, là, regardez les Devils, c'est ça que ça a donné.
Et en plus, après ça, ça te met dans une situation d'emprunter des raccourcis pour aller chercher ce que t'as vendu. Et là, quand tu vas chercher des sous-bandes, c'est même, puis peut-être qu'ils vont bondir éventuellement. Non, mais c'est ça. Fait que liquide tout. Regardez tous les clubs, les gars, en reconstruction dans la Ligue. Nommez-les, là. Ottawa, tout le monde va chercher des vétérans. Ron Hainsey, il joue pour les Sénateurs d'Ottawa. Ah ouais. Un petit mieux Ron Hainsey ou Jeff Petrie. C'est sûr qu'ils ne coûtent pas la même affaire.
Mais moi, je trouve qu'ils ont fait un bon, quand même, des bons gestes.
Ça va bien, Ottawa, en ce moment, mais ils n'ont pas de pression de gagner.
Mais
même,
je parle des Devils. Tu sais, cet été, là, moi, je trouve qu'ils ont fait des bons gestes. Tu fais pas ça cet été, là. Je veux dire, t'es en arrière des Red Wings, là. Tu sais, quand même,
tu fais allusion à quel geste, Alexandre?
Non, mais par exemple, Gusev. C'est leur troisième meilleur marqueur dans l'équipe.
Ça a été bon.
C'est pas un mauvais geste.
Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand
du
même...
Bon et du
moi,
mauvais.
J'ai pas détesté entièrement son mandat. Donc, Gusev, c'était très bon. Il a profité d'une équipe. Là. Bon, il y avait une impasse avec Vegas. Il avait fait la même chose il y a deux ans quand il est allé chercher Marcus Johansson aux Capitals de Washington. Même chose. Les Capitals étaient coincés. Il a été les chercher. Taylor Hall, il l'a volé aux Oilers. Il a fait quand même des transactions importantes. Il a essayé. Il a été créatif.
Mais quand on parle d'équipe qui manque de talent, tu sais, eux, le vrai problème, là, c'est que des joueurs de très haut talent, mettons, entre 25 et 30 ans, là, c'est... Il y a Kyle Palmieri qui n'est pas du haut talent en plus, là, mais c'est tout. Il n'y a rien dans cette équipe.
Il y avait Adam Henrique qui a dû sacrifier pour aller chercher Vatanen parce qu'il avait besoin
de défenseur. Équipe qui est honnêtement, c'est une équipe qui est mal construite. On en a souvent parlé dans le podcast, là, une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley. T'as un noyau de jeunes très, très talentueux. Là, on parle de jeunes de moins de 22 ans, très forts. Tes meilleurs joueurs sont entre 24 puis 28, mettons, puis là, après ça, t'as des vétérans qui viennent compléter. Ce qui ressemble d'ailleurs à la structure du Canadien, mais il y a un manque de talent. Les Devils, c'est tout croche. c'est tout croche.
Non, mais quand tu te lances dans une reconstruction aussi, il faut comprendre que...
Martin Brodeur est rendu dans le paysage quand même.
Avec les Devils, il est revenu, mais tu sais, veux pas, là, t'essayes de te projeter dans l'avenir. T'essayes de prédire l'avenir. Et t'es bien mieux de travailler avec un tu l'as, comme on dit, tu sais ce que ça vaut, tu sais qu'est-ce qu'il te donne, que de dire, ah ben oui, dans 3-4 ans, on va avoir lui, puis lui, puis lui, mais t'as aucune espèce d'idée. Il y a personne qui est capable de prédire l'avenir. Donc, on en a parlé avant de rentrer en onde, les gars. Plusieurs équipes dans la dernière décennie se sont lancées dans des reconstructions importantes et ça a été interminable. Et pour certains, c'est pas encore terminé.
Tu peux te perdre là-dedans. Comment ça fait d'années qu'on dit que les Browns de Cleveland vont bondir?
C'est vrai. Non, mais la Caroline...
On n'a pas le droit d'utiliser les Browns en exemple dans quoi que ce soit.
C'est irrationnel. Non, mais les Panthers de la Floride, les Hurricanes de la Caroline...
Ben, Atlanta / Winnipeg, là, 15 ans de suite, pas de série. C'est pouvantable. Eux, ils ont repêché haut. Les Maple Leafs, 11 ans quand même. Les Oilers, Flames 10 ans, les Panthers 10 ans. C'est
et
long,
et à ce sujet, là, nonobstant les noms dans l'alignement, moi, je pense que Montréal, malgré tout le mal qu'on en dit, qui fait peur aux pissous de joueurs autonomes qui veulent pas venir jouer avec la fiscalité québécoise et canadienne, c'est un marché qui soutire le maximum des athlètes. Je pense. Parce que
des athlètes
comment
sont
ça se fait qu'on
ça.
A, regarde les alignements qu'on avait sur papier au fil des ans comparativement à des alignements à Toronto et Edmonton qui étaient séries. C'est vrai qu'il y a des bonnes ambiances dans ces villes-là, mais il y a quelque chose. Moi, je crois à ça que Montréal, regarde Kovalchuk, Kovalev, il y a des athlètes qui c'est un marché à hauteur de leur égo.
Je pense que si l'équipe gagne, là, honnêtement, si l'équipe a vraiment un bel avenir,
ça
là,
peut être
des bons joueurs, ils peuvent en apprendre, mais le crunch du Canadien, il est dans 18 mois, puis j'ai des gros doutes que présentement, de la façon dont ça se passe, tu sais, on va être capable. Ben,
pourquoi dans 18 mois?
Ben, parce qu'en fait, il y a 6 joueurs importants qui deviennent autonomes
en même temps. Par rapport au dossier de contrat.
Et oui, mais il faut vraiment considérer ces joueurs-là comme étant des joueurs, comme s'ils venaient d'une autre ville, finalement. Puis, ça va être difficile là, de les convaincre que leur avenir, il est à Montréal pour 6 ans, tous ces joueurs-là, en même temps. Là,
ça dépend pas, comment ils vont en jouer. Regarde l'an passé.
Ben justement, tu sais, on a parlé tantôt qui part. Tu sais, t'as Dano, Tatar, Gallagher, Petrie, non, Armia, tout en même temps. C'est beaucoup là en même temps.
Pour clore sur les Devils, le point de vue que je voulais amener dans la conversation, puis je pense qu'on l'oublie là. Ben je pense pas qu'on l'oublie, mais c'est encore une ligue de gardiens de but. Tu sais, on parle de l'offensive, puis si tes gardiens de but font pas les arrêts, ouais, t'es dans le trouble. Puis on peut se questionner sur c'est quoi le facteur gardien de but à Montréal cette saison. Je dis pas qu'il aurait pu tout corriger là, mais l'absence d'un bon deuxième gardien, un premier qui dont l'efficacité est affectée par une surutilisation, puis qui peut-être aurait pu être un petit peu meilleur. Les Devils du New Jersey, leur meilleur gardien est à 905. Ben, quatre gardiens depuis le début de l'année.
C'est probablement ce qui a coûté le poste à Richard Roux, en partie parce que ils ont donné un choix de première ronde qui est devenu Brock Boeser pour acquérir
Corey Schneider. Aïe, aïe.
Non, mais qui a été correct, je pense, les deux, trois premières années.
Il était très bon.
Il a été bon au début.
Mais ce qui est arrivé à Schneider, il a été blessé.
C'est ouais, c'est des problèmes aux hanches, entre autres, là, qui l'ont rattrapé. Mais
ces trois premières saisons, 921, 925, 924, c'est des grosses saisons. Et après ça, 908, 907, 903, 852 cette année.
J'espère que Carey n'aura pas la même courbe de performance parce que ça ressemble à ça pas mal ce que tu viens de décrire.
C'est juste que Schneider, c'est vraiment la santé, lui, qui l'a rattrapé.
Même,
ce qui est visiblement pas le cas de Price. Là, donc, dans le cas de Schneider, c'est plus dur à récupérer.
Bon, ils ont essayé d'avoir un gardien. Ils en ont eu un pendant 3 ans. Ouais. Ils sont restés avec. Ils sont restés trop longtemps avec lui. Et là c'est les portes tournées. C'est Mackenzie Blackwood. Quand on parle de jeune, tu sais, c'en est un jeune, puis on l'a vu gardien contre le Canadien, il a bien joué contre le Canadien, mais tu sais, il a 905, fait que c'est pas un gardien qui t'amène dans les séries. Là,
l'énumération de stats, tu sais, je fais juste les 6 dernières saisons, les 7 dernières saisons de Carey Price, 927, 933, 934, 923, 900, 918, 904 cette année. Il y a des signes, je dis pas que c'est juste de sa faute, mais il y a des indicateurs.
Un gars peut rebondir,
c'est un athlète fier, puis la santé semble être au rendez-vous cette année, ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est un gars qui a un corps usé.
Ben, malgré le fait qu'il a joué beaucoup, justement, ça, c'est peut-être... qui cherchent absolument du positif.
On va aussi dire il y avait des meilleures défenses aussi il y a 6 ans.
La défense du Canadien était vraiment
très, très, très bonne.
On peut pas dissocier les deux.
Tu peux regarder les choses de deux façons. T'sais, on peut se dire que dans 18 mois, ils ont plusieurs joueurs qui sont joueurs autonomes à la fin de l'année. D'un autre côté, on peut se dire que le Canadien est aucunement attaché avec personne en attaque. Ils n'ont pas de contrat à long terme sur lequel ils sont pris. Donc, il y a de la place là. Pour donner des contrats à long terme. Je serais curieux d'aller voir s'il y a d'autres équipes qui n'ont pas un seul joueur de signer là, au-delà de la saison 2021 ou à peu près. Là.
Eh bien, messieurs, à moins que vous ayez quoi que ce soit à ajouter à cette magnifique balado-diffusion...
Bravo à Jonathan Huberdeau qui devient Québécois meilleur marqueur de l'histoire des Panthers de la Floride.
Ça prenait un Québécois en Floride pour... qui a-t-il dépassé?
En moins de 2 minutes, et on va revenir là-dessus sur le thème. C'est qui est le meilleur Québécois dans la Ligue nationale de hockey en ce moment? Le meilleur?
En ce moment, c'est sûr que Huberdeau ramasse des points à pelleter.
Je vais présenter ça autrement, Guillaume. OK? Ouais. Mettons, ils sont tous libres.
Ouais.
T'es un gars qui veut gagner la Coupe Stanley.
Si je veux
quel
gagner
Québécois
cette année,
tu vas chercher
si je veux
pour
gagner
t'aider?
Cette année, ouais. David Perron.
Ouais.
David Perron. Mmh. C'est la façon
qu'il
élève son jeu en série, lui.
Ouais. Ouais.
David Perron.
Mais il y en a plusieurs.
Réponse qui m'étonne, mais je pense que c'est une bonne réponse. N'avez-vous en tête, les gars?
Moi, il y en a 3 que j'aime. Là. Il y a Huberdeau, Chabot et Fleury. Fleury, là, c'est incroyable ce qu'il réussit à faire encore à son âge. Lui, c'est un vrai game changer pour une équipe. Chabot, à long terme, tu peux pas passer à côté. Pour moi, il va être le meilleur défenseur de la Ligue des 10 prochaines années.
Vraiment. Huberdeau, Chabot,
Un gars que tu voudrais ajouter à ton équipe, là, tous les Québécois sont libres. Bang,
Anthony Manta, c'est un Italien, ça, d'origine. On va prendre lui.
Mais, pis si, ils sont à l'honneur aujourd'hui.
Pis si on parle sur un avenir disons, sur un avenir de 5-7 ans, j'hésite beaucoup entre Chabot et Pierre-Luc Dubois.
Mais il y a des beaux Québécois.
Un gros centre.
Ou Lafrenière.
Ouais. Oui, oui, mais là.
On va reparler bientôt de tous les.
Jamais en arrière pour Dubois.
Non, dis, t'es sorti Dubois, tu sais. Ouais, c'était le titre d'un album de Claude Dubois après un petit séjour à l'ombre dans le temps. Sorti Dubois. Aïe, aïe, aïe. Alors, les gars, je pense que ça complète cette balado. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Et je dois vous avouer que j'éprouve de plus en plus de plaisir à me retrouver à la table avec vous tous. Peu importe, on a d'autres collaborateurs, on les salue, mais beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. J'espère que vous en avez autant d'écouter.
C'est partagé, Mario.
Ben, je m'en réjouis. C'était Sortie de zone pour ce lundi 13 janvier. Bonne écoute, tout le monde. J'espère que vous avez du plaisir. À bientôt. Ciao.